tous nos clients prévoyants, mettez votre famille à l'abri avec l'assurance décès. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Si l'on interroge autour de soi sur la maladie qui, plus que tout autre, est dangereuse pour les enfants, sur le nom de l'infection qui provoque le plus grand nombre de décès de la naissance à l'âge de 5 ans, rares sont ceux qui spontanément vont trouver la réponse exacte. Cette réponse, c'est la pneumonie. En 2015, l'Organisation mondiale de la santé recensait plus de 920 000 morts d'enfants provoquées par cette maladie respiratoire, essentiellement virale ou bactérienne. Terrible bilan, et pourtant en nette baisse hein, par rapport au début des années 2000. Maladie surnommée la tueuse d'enfants, la pneumonie peut également être redoutable pour les personnes âgées ou fragilisées. La pneumonie pourtant évitable par le biais de la vaccination, d'une bonne alimentation, de mesures d'hygiène simples, d'un cadre de vie qui offre une bonne qualité de l'air. Diagnostiqué de façon précoce, le traitement de la pneumonie bactérienne, des antibiotiques, représente un coût limité. Vaccin efficace, traitement accessible. Alors, comment faire reculer cette incidence des pneumonies sur la santé, sur la mortalité des tout-petits? C'est précisément la question que nous posons aujourd'hui dans Priorité Santé. Lutter contre la pneumonie, prendre en charge de façon précoce les infections respiratoires aiguës. Nous allons retrouver tout de suite en ligne de Dakar le professeur Mamadou Ba, pédiatre pneumologue, président de l'Association sénégalaise de pneumologie pédiatrique. Et il est sur le point de nous rejoindre en studio. On l'attend, le professeur Ralph Epo, chef du service de pédiatrie au centre hospitalier intercommunal de Créteil, qui est également responsable du centre de référence des maladies respiratoires rares, du centre de ressources et de compétences pour la mucoviscidose. Et enfin, d'émission, on aura le plaisir de trouver la chronique sport du docteur Jean-Marc Sen, médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo.
Priorité santé sur RFI.
J'employais tout à l'heure le terme de tueuse d'enfants pour évoquer cette maladie respiratoire, la pneumonie. Pour commencer, on part pour le Sénégal. Nous sommes en ligne avec vous, professeur Mamadou Ba. Bonjour.
Bonjour, Madame Caroline Paré.
Professeur Ba, pédiatre, pneumologue, ancien chef du service des urgences et de pneumologie à l'hôpital d'enfants Albert Royer de Fane à Dakar au Sénégal. Professeur, justement, dans votre pays, en pédiatrie, est-ce que les pneumonies, est-ce que cela représente un grand nombre d'hospitalisations et déjà de consultations?
Merci beaucoup. Merci de l'invitation que vous m'avez faite à votre magazine Priorité Santé pour parler avec vous d'un sujet préoccupant, ce sont les pneumonies de l'enfant. Effectivement, au Sénégal, les pneumonies constituent un véritable problème de santé publique du fait de la morbidité importante et de la mortalité élevée qu'elles entraînent. Au niveau de l'hôpital d'enfants Albert Royer, les dernières données rapportées en 2018 montrent que la prévalence de la pneumonie tournait autour de 3,7% des enfants de moins de 5 ans hospitalisés à l'hôpital d'enfants Albert Royer, qui est un hôpital de niveau 3 situé à Dakar. Cependant, quand on a fait des enquêtes dans la communauté, avec l'EDS Continu, qui fait des enquêtes démographiques et de santé, rapportées en 2016, on s'est rendu compte que dans la communauté, avec ces enquêtes, la prévalence de la pneumonie tournait autour de 3%. Ces chiffres expliquent la mortalité élevée qu'on rencontre avec les pneumonies, notamment cette mortalité avoisine à Dakar, au Sénégal, autour de 15% chez les enfants de moins de 5 ans. Et cette mortalité est la deuxième cause, la pneumonie est la deuxième cause de mortalité après les infections néonatales.
Donc, les problèmes liés à l'accouchement d'abord, deuxièmement la pneumonie. Vous dites, professeur Mamadou Ba, 15%, ça représente au chiffre qui est donné par l'Organisation mondiale de la santé au niveau mondial. J'aimerais vous poser cette question pour les parents qui nous écoutent justement, professeur. Alors, quelles sont les signes qui poussent les parents à venir avec leur bébé, avec leur enfant, jusqu'à votre service, jusqu'au service de l'hôpital de Fannes, pour consulter en se disant « mon bébé a peut-être une pneumonie ».
Merci de la question. Souvent, les parents, les populations, quand un enfant a des problèmes respiratoires, ont tendance à dire que en Wolof de pneumothorique, et ils vont consulter d'abord les praticiens. Et c'est avec l'effet du traitement traditionnel qu'ils vont venir à l'hôpital dans des situations extrêmement graves. Cependant, les signes peuvent alerter qu'il y a une toux, qu'il y a une difficulté respiratoire, qu'il y a de la fièvre et l'enfant ne mange plus correctement. Ça devrait alerter les parents et les conduire très rapidement dans les suivis hospitaliers. Sinon, le fait de passer par les praticiens, ça ne fait que retarder la prise en charge efficace dans les structures de santé et peut-être aggraver le pronostic vital et augmenter le nombre de décès.
Et vous insistez bien sur ce point, hein, professeur Mamadouba. Plus on consulte tôt, plus l'enfant a des chances de guérir, a des chances d'aller mieux. C'est très important de le dire encore une fois. Mieux vaut aller à l'hôpital avec des symptômes qui sont inquiétants, hein, sur un tout petit bébé, cette fièvre, ce problème de respiration. On voit la cage thoracique qui bouge beaucoup. Mieux vaut y aller, même si, à la limite, il n'y aura pas de diagnostic de pneumonie, que de rater ce diagnostic.
Effectivement, vous avez parfaitement raison. Il vaut mieux pêcher par excès que de pêcher par défaut. Donc, ce qu'on ne cesse de dire aux parents, c'est que dès que votre enfant a un problème respiratoire, il faut aller à l'hôpital. Il ne faut pas retarder cette consultation-là, passer par les grands-mères ou les grands-parents, passer par les praticiens avant de venir à l'hôpital. Ça ne fait qu'aggraver la situation de l'enfant.
Alors, quel est le traitement que vous administrez généralement pour les pneumonies bactériennes, professeur Mamadouba, ces pneumonies qui peuvent être très dangereuses pour les petits-enfants?
Merci de votre question. Ce qu'on sait, c'est que les pneumonies bactériennes sont traitées avec des antibiotiques. Fort heureusement, depuis 2012, nous avions publié l'étude OFSER, qui est l'Observatoire sénégalais de l'antibiothérapie des infections respiratoires du virus. Avec cette étude, nous avons pu dégager un consensus de traitement sur l'efficacité de l'amoxicilline dans le traitement des pneumonies, aussi bien chez les enfants que chez les adultes. Et c'est ainsi que l'amoxicilline constitue l'antibiotique de premier choix dans le traitement de ces pneumonies. Et cette molécule est disponible dans les structures publiques, mais également disponible dans les officines privées et à moindre coût. Donc, nous invitons les parents à consulter rapidement et à venir faire bénéficier leur enfant d'un traitement efficace.
Parce que parfois, on peut se dire, à quoi bon se faire soigner si je n'ai pas l'argent pour acheter les médicaments? Là, c'est tout le contraire, professeur Mamadouba. Cette amoxicilline, ce médicament qui est très commun, cet antibiotique, eh bien, on peut le dire, ça ne coûte pas cher. Est-ce que vous pouvez nous donner un ordre d'idée?
Ça ne coûte pas cher. Non seulement ça ne coûte pas cher, vous savez que le gouvernement du Sénégal, le président de la République du Sénégal, a mis dans encore les initiatives, une initiative de gratuité des soins aux enfants de moins de 5 ans.
Oui.
Ça veut dire quoi? C'est que ces enfants, quand ils arrivent, quand ils consultent, ils bénéficient nécessairement des soins des enfants de moins de 5 ans et gratuitement. Et cette molécule, même dans les officines privées, la plaquette d'amoxicilline ne coûte pas plus de 1000 francs CFA. Ça veut dire 1 euro, à peu près 1 euro, 10 centimes, 20 centimes à peu près.
Non, c'est vraiment accessible pour le coup. On a parlé justement de la consultation, on a parlé du traitement. Maintenant, on va parler des moyens pour éviter de contracter cette maladie, éviter de contracter la pneumonie. Et ça, c'est un petit peu partout pareil dans le monde, professeur Mamadouba. Il y a des risques associés. On peut dire que le premier de ces risques, surtout pour une région comme l'Afrique subsaharienne, eh bien, ça va être la malnutrition.
Très bien, très bien. Alors, c'est pourquoi nous insistons davantage dans les efforts de sensibilisation sur une nutrition adéquate des enfants. Parce qu'on s'est rendu compte que le fait de préconiser l'allaitement maternel exclusif jusqu'à l'âge de 6 mois suivi d'une alimentation complémentaire équilibrée permet de booster l'immunité et de préserver l'enfant contre les infections. Donc, la première mesure à faire, c'est de conseiller une alimentation correcte.
Avec cet allaitement maternel mesure, pour les premiers mois de la vie.
Avec pour les premiers mois, pour les 6 premiers mois de la vie. La deuxième mesure est d'éviter autant que possible la pollution, les fumées, telles qu'en soit l'origine, l'encens, charbon de bois, feu de bois, tabagisme passif, actif, fumée des vieilles voitures et les facteurs climatiques délétères et surtout aussi la vie en promiscuité. Et tous ces facteurs augmentent le risque de survenue de pneumonie et parfois même peuvent les aggraver. Donc, c'est la deuxième mesure. La troisième mesure, c'est la vaccination. Si vous permettez, nous y revenons ou bien j'en parlerai maintenant.
La vaccination, on va en reparler longuement. On vous remercie infiniment, hein, professeur Mamadouba. Je rappelle que vous êtes l'ancien chef du service des urgences et de pneumologie à l'hôpital Albert Royer de FAN à Dakar.
RFI à Dakar, 92 FM.
Et il vient de nous rejoindre en studio, professeur Ralph Epo, qui est avec nous. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes chef du service de pédiatrie au centre hospitalier intercommunal de Créteil, responsable du centre de référence des maladies respiratoires rares. Et on citait tout à l'heure, justement, on peut dire cette grande tueuse d'enfants, cette faucheuse, la pneumonie, chiffre effrayant, 3400 décès par jour sur la planète, des calculs macabres. Un enfant qui décède toutes les 25 secondes, malgré la prévention, malgré, on l'a entendu avec le professeur Bas, ces médicaments à disposition donc qui existent, et puis des mesures donc comme la vaccination. Justement, question générale, professeur Epo, pour commencer avec vous, pourquoi une telle hécatombe en dépit des moyens qui sont là, des moyens qui existent ?
Je pense que la difficulté, en fait, c'est le retard peut-être au diagnostic, parce que, et c'est ça qui est le plus déroutant, c'est que, en tout cas, pour tout ce qui est pneumonie bactérienne, on a des traitements. Pour un grand nombre de pneumonies virales, on a des vaccins. Donc, c'est surtout une méconnaissance, en fait, des traitements et puis un retard en fait au diagnostic qui sont responsables. Et c'est vrai que avec des traitements qui sont assez simples, en tout cas pour ce qui est des pneumonies bactériennes, on peut enrayer en fait très très rapidement cette pathologie. Donc c'est vrai que c'est un peu effectivement déroutant de voir cette hécatombe, comme vous dites, alors qu'on pourrait prendre en charge un certain nombre de ces pneumonies.
Alors ça veut dire qu'il faut sensibiliser la population, on va dire les parents, informer un maximum pour reconnaître ces signes qui doivent ne pas faire perdre de temps. Mais qu'est-ce que se disent les gens finalement ? Ça va passer quand un bébé a des problèmes respiratoires ? Les gens se disent ça, ils attendent, qu'est-ce qui se passe ?
Non, c'est que en fait, y a deux aspects. On peut avoir des cas en fait avec des fièvres très élevées et un enfant qui va pas bien du tout avec des signes très très forts. Et c'est vrai que dans ce cas-là, il est urgent d'aller dans des structures, soit des structures d'urgence, soit c'est son médecin traitant si c'est vraiment au début. Mais on a un certain nombre de cas où on a des pneumonies virales, où le tableau n'est pas tellement sévère au départ, avec des situations qui peuvent perdurer et après se surinfecter et être responsable. Alors après le sujet en fait aussi est important parce qu'on peut avoir des enfants qui sont fragilisés et qui sur des pneumonies virales qui normalement ne donnent que des symptômes qui sont banaux vont entraîner en fait une aggravation progressive et puis une dégradation progressive sur un terrain qui est fragilisé.
C'est pour ça que la nutrition, l'alimentation compte beaucoup, comme par exemple aussi des enfants qui pourraient être atteints de maladies chroniques ou de maladies génétiques, comme par exemple en Afrique la drépanocytose qui va affaiblir considérablement le sujet.
Oui, c'est la drépanocytose, c'est la tuberculose aussi,
le VIH,
c'est un certain nombre de tableaux sous-jacents qui vont fragiliser les enfants. Ça peut être aussi la dénutrition ou la malnutrition. Je pense que ça, c'est un élément important qui vont fragiliser en fait ces enfants qui vont être plus sensibles à ces infections, encore une fois, qui peuvent qui sont normalement bénignes, et c'est peut-être aussi pour ça que les gens ne s'alertent pas en fait sur les débuts des symptômes, mais qui peuvent s'aggraver progressivement sur un terrain fragilisé.
Est-ce qu'on va dire que finalement l'intensité de la maladie est liée à l'agent pathogène ou non ? Une pneumonie virale peut être tout aussi préoccupante qu'une pneumonie bactérienne ?
Encore une fois, c'est le terrain qui compte. C'est vrai que en France, en tout cas, on a un certain nombre de pneumonies virales. Alors actuellement, en ce moment, c'est le VRS, le virus respiratoire syncytial, qui donne des bronchiolites qui peuvent être, pour un grand nombre de cas, tout à fait pas du tout graves, en fait. Mais pour certains enfants qui sont fragilisés, alors c'est vrai que ce sont surtout les tout-petits, hein, les enfants de moins de 2 mois, 1 mois et demi, qui vont être fragilisés et qui vont être sensibles. Et même en France, et sur un terrain qui est encore plus fragilisé, je vous dis encore par une dénutrition ou des problèmes d'alimentation, on va avoir une gravité plus importante. Mais c'est vrai que à côté de ça, on peut avoir des infections bactériennes et qui, dans tous les cas, que ça soit quel que soit le terrain, vont donner des infections graves et sévères. Mais celles-là alerte en général assez rapidement.
Alors justement, ça rejoint une question Facebook que nous pose Vincent du Tchad. Comment est-ce qu'on peut reconnaître et faire la différence entre la pneumonie et la bronchite ? Question de base, mais question importante.
C'est une question même essentielle. Hein. J'en parlais encore ce matin avec des confrères. La difficulté, en fait, c'est que sur une bronchite, habituellement, on a un petit peu de fièvre, des symptômes qui sont pas tellement importants, et puis des symptômes qui sont bien tolérés, parfois des sifflements bronchiques. Et sur ce terrain-là, habituellement, la première réflexion, c'est un virus. Et on sait que les antibiotiques n'ont aucun effet sur les virus. Donc la première réaction, que ce soit mes confrères ou que ce soit de n'importe quel médecin, est de dire on attend parce que les choses vont passer. Et c'est vrai que c'est très différent en fait d'une infection bactérienne, encore une fois, où vous allez avoir de la fièvre élevée qui ne va pas chuter. Habituellement, quand on a une fièvre virale, ça monte et ça descend pendant les 48 premières heures avec des fièvres qui sont bien tolérées. Et là, sur des pneumonies bactériennes, on va avoir une fièvre qui ne chute pas et qui reste très élevée avec des symptômes qui sont pas très bien tolérés chez l'enfant. Et c'est vrai que c'est un peu comme ça qu'on peut faire la différence, mais on a assez peu d'éléments en fait qui nous permettent de différencier et de savoir à quel moment il faut mettre des traitements antibiotiques, à quel moment il ne faut pas.
Alors, une question essentielle, c'est bien sûr, comment est-ce qu'on attrape cette pneumonie, professeur Ralph Epo ? Tout à l'heure, vous avez parlé de la fragilité du système, en particulier de l'immunité, la jeunesse, l'alimentation. Tout cela entre en ligne de compte. Mais qu'est-ce qu'on peut faire donc ? Expliquer d'abord comment ça s'attrape et puis comment ça s'évite.
Alors, comment ça s'attrape ? Ça s'attrape, c'est des contaminations, comme on dit, oropharyngées. Ça veut dire en pratique que quand vous êtes en contact, alors on va faire les choses un petit peu simples pour une infection virale. Vous avez un grand frère de 3-4 ans ou une grande sœur de 3-4 ans qui va avoir cette infection, qui va être enrhumée, qui va avoir le nez qui coule et qui va tousser et qui va contaminer un enfant plus petit dans la famille. Ça, c'est la contamination la plus fréquente. Alors après ça, il y a des facteurs qui favorisent.
Ça veut dire, excusez-moi de vous interrompre, que ce virus du rhume chez l'enfant d'un âge moyen va se transformer ou c'est le même exactement ?
Non, c'est le même. C'est le même qui va passer.
Alors, une autre dimension.
Voilà. La bactérie, c'est un peu la même chose, sauf qu'elle passe peut-être un peu moins facilement que le virus qui passe en général très très facilement d'un enfant à l'autre. Pour l'éviter, c'est vrai que, alors, on peut pas empêcher la collectivité, c'est parfois important, hein. Comme je dis toujours, il n'y a pas que le poumon et la collectivité est importante pour le développement de l'enfant. Mais il faut éviter, quand vous avez un grand frère qui est malade, qu'il aille trop faire de bisous, d'embrasser les mains ou d'embrasser sur la bouche, ou une grande sœur, un petit bébé qui va être encore une fois un peu plus fragilisé du fait du terrain.
C'est pas pour rien qu'en milieu hospitalier, on porte un masque quand on est enrhumé.
Oui, on porte un masque et, les solutions hydroalcooliques aussi ont beaucoup fait en fait pour la diminution de la contamination qui peut exister même à l'hôpital et c'est une des raisons pour lesquelles quand on est à l'hôpital on on demande à la famille, aux tout-petits, de ne pas visiter quand vous avez un enfant qui est hospitalisé, parce que même à l'hôpital, la contamination peut avoir lieu.
Et ça veut dire aussi, professeur Alfepo, quand on n'a pas de solution hydroalcoolique à la maison, tout simplement, le geste réflexe à chaque fois, c'est se laver les mains correctement avec du savon.
Voilà, se laver les mains, bien aérer les pièces, ça c'est important. Ne pas fumer, parce que ça fragilise la muqueuse bronchique et c'est ça qui favorise ces infections. Aérer régulièrement, c'est des manœuvres qui sont assez simples, mais qui permettent de diminuer le risque de façon importante.
Et on a ce message qui manifeste une certaine inquiétude de la part de Rennes, qui est à Brazzaville au Congo. Je suis constamment en contact avec des patients ayant séjourné en pneumologie pour une infection pulmonaire. Est-ce que je suis exposée ? Difficile de savoir quand on n'a pas déjà la précision sur les maladies concernées.
Quand on est en contact, on est exposé, mais aussi on se protège. On a un certain nombre dans tous ces services de mesures qui font qu'on a une protection. Est-ce que il faut savoir que très souvent ce sont pas les mêmes germes et que les germes qui se propagent sont plutôt des germes qui s'attrapent assez facilement en collectivité et à l'hôpital on a tendance à se protéger un peu plus de ces germes. Donc je ne sais pas si le risque est forcément plus important parce que cette personne elle a probablement connaissance de toutes les mesures qu'on a pour se protéger mieux par rapport à d'autres personnes qui n'auraient pas son expérience.
Alors on a parlé justement de la désinfection, lavage des mains, etc., limiter le contact avec les personnes infectées. On revient à la vaccination, si vous le voulez bien, professeur Alfepo. Cette vaccination contre la pneumonie aujourd'hui obligatoire en France pour les enfants, qu'en est-il du reste du monde ? Qu'en est-il justement aussi de l'efficacité de cette vaccination ?
Alors son efficacité, elle est grande. C'est vrai que elle est importante aussi en France. Elle est encore une fois essentielle aussi dans le reste du monde. Si on prend par exemple la rougeole, qui est importante en France et pour lequel on a eu des difficultés de maintien de la vaccination parce que on a du mal à voir la gravité potentielle de cette maladie, alors que dans notamment en Afrique, elle peut avoir une gravité majeure. Donc la vaccination...
On l'a vu récemment avec les chiffres de la mortalité, notamment en République démocratique du Congo, c'est absolument effroyable.
Oui, c'est majeur. Là encore, le terrain joue beaucoup, mais ça montre quelle importance peut avoir sa vaccination et combien on peut protéger. Et encore une fois, c'est vrai que on a peut-être plus la sensibilité que cette protection est importante dans des pays comme les pays africains, mais elle est aussi essentielle en France et il faut le rappeler de façon très très régulière parce que on peut avoir des pneumonies très très graves dues à la rougeole en France aussi et encore plus en Afrique.
Associé à d'autres maladies, comme vous le dites, la rougeole, également la coqueluche, ça permet de répondre à cette interrogation, à ces doutes émis par Grasse qui est à Boutembo en RDC justement. Est-ce que de nombreuses vaccinations ne peuvent pas causer des problèmes dans le futur d'un enfant ? Je sais ce que vous allez répondre. Vaccination, problème ? Vous répondez ?
Non, la vaccination n'a aucun problème. Quand on a une vaccination, on stimule les défense immunitaire. On ne peut avoir que des problèmes pour chez des gens qui ont des difficultés avec leur système immunitaire. Autrement, on ne fait que la renforcer. Donc, il n'y a aucun risque à vacciner. Il y a par contre énormément de risques à ne pas vacciner.
Voilà qui est très clair. Et une nouvelle fois, on le dit, les vaccins, c'est essentiel pour se protéger. C'est le meilleur moyen qu'on ait trouvé jusque-là.
Oui, parce que de nombreux virus qui entraînent des pneumonies ne sont pas accessibles au traitement. Encore une fois, les antibiotiques ne servent à rien. Par contre, le vaccin permet de prévenir ces pneumonies ou de rendre le système immunitaire beaucoup plus fort face à l'arrivée de ces virus.
Et après les messages Facebook, on passe tout de suite aux questions au téléphone avec nos auditeurs.
Priorité santé sur RFI.
On rejoint tout de suite le Bénin, Cotonou, où nous sommes en ligne avec Sibi. Bonjour Sibi.
Bonjour Caroline.
Le professeur Alfepo est à votre écoute. Allez-y, on vous écoute.
Bonjour professeur.
Bonjour.
Oui, j'aime. J'ai ma fille qui a fait la pneumonie à l'âge de 2 ans. Tout a commencé par une toux, un rhume, un peu de fièvre. Je l'ai conduit à l'hôpital. Malgré les antibiotiques et les différents soins, elle n'était toujours pas guérie. La maladie a encore empiré avec des toux nocturnes et une détresse respiratoire. Elle a fait des aérosols sans suite. J'ai alors fait des recherches sur Internet et j'ai suggéré au médecin qu'on fasse une radiographie. C'est ça qui a révélé la maladie et elle a été prise en charge immédiatement. On l'a mise sous oxygène pendant 3 à 4 jours avec des antibiotiques injectables et oraux. Et j'altérais le paracétamol pour diminuer la fièvre. Docteur, ma question est la suivante. Est-ce que c'est possible qu'elle fasse encore la maladie vu qu'elle est tout le temps enrhumée? Actuellement aussi, elle est enrhumée.
Donc cette inquiétude de Sibi, elle s'interroge sur les récidives, le risque de retour de cette pneumonie. Sa fille en a fait une manifestation assez forte hein, puisqu'elle l'a conduit jusqu'à l'hôpital. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire ?
Non, chère madame, ce qui se passe quand on a une infection comme ça, et votre histoire le raconte très très bien, c'est qu'on a deux aspects. L'infection virale qui était responsable de l'infection au départ, et puis il a probablement une surinfection avec la bactérie qui a pu être traitée par les antibiotiques. Et un élément qui est important, c'est l'atteinte des bronches qui ont fait que probablement elle a eu besoin d'oxygène et des choses, tous les traitements qu'elle a pu recevoir. L'évolution, elle a été bonne. La force des enfants, on va dire, c'est leur capacité à récupérer. Quand ils ont une pneumonie comme ça, et c'est un peu la différence par rapport aux adultes, c'est qu'on récupère très facilement parce qu'on a un système respiratoire il est en train de se faire. Donc, il se répare très, très facilement. Donc, il y a de grandes chances pour qu'elle ait complètement récupéré de sa pneumonie. Maintenant, et c'est vrai que le fait qu'elle soit, peut-être que ça l'a un peu fragilisée, qu'elle va rester un petit peu fragile, il faut un petit peu, on va dire peut-être un petit peu plus la protéger, mais c'est aussi une bonne chose pour elle d'être un peu choyée par rapport à ça. Est-ce que ça peut récidiver avec d'autres virus? Oui, elle peut avoir des infections avec d'autres virus, mais finalement, comme tous les enfants, s'il n'y a pas un terrain en dessous qui la fragilise, ça en veut dire en pratique, si elle n'a pas de maladie sous-jacente qui peut la fragiliser, elle peut avoir des infections virales comme tous les enfants, et c'est ça qui va, c'est comme ça qu'elle va fabriquer ses défenses. Et en étant en contact avec des virus ou des infections quand elle est enrhumée comme ça, c'est comme ça qu'elle fabrique ce qu'on appelle des anticorps qui vont permettre de mieux se défendre. Donc, c'est parfois difficile, surtout quand on a eu un enfant qui est très malade, mais sachez que ces petites infections, ça lui permet un peu comme un vaccin finalement, de la rendre plus forte face aux infections et de se débrouiller mieux. Donc, il y a de grandes chances que les choses évoluent bien après cet épisode. En tout cas, elle n'a pas normalement plus de risque qu'un autre enfant d'être à nouveau malade.
Ça vous a rassuré, Sibi, ce commentaire du professeur Epo?
Oui, un peu, ça va.
Oui, vous avez une autre question?
Oui, j'ai une autre question, madame.
Allez-y.
Je veux savoir, parce qu'elle est née avec une malformation à l'ombril, en phallocène. Je ne sais pas si c'est ça qui fait qu'elle est tout le temps malade.
Alors,
oui, c'est possible, effectivement, parce que le fait qu'elle a eu cette malformation, il a fallu la traiter, donc elle a été probablement un petit peu fragilisée, parce que quand on a une malformation comme ça, on a un peu plus de difficultés à respirer et du coup, tout ce qui est germe s'évacue peut-être un petit peu plus facilement. On sait que des enfants qui ont eu des amphalocèles, plus la chirurgie, qui ont eu un petit peu ces douleurs, sont un petit peu plus fragilisés. Mais là encore, le fait de prendre en charge et de traiter l'omphalocèle, il y a de grandes chances qu'elle ne soit pas plus à risque après en grandissant qu'un autre enfant.
Voilà, Sibi. On vous souhaite une excellente journée au Bénin, à Cotonou. On part pour la République démocratique du Congo, Kinshasa, où l'on retrouve Emmanuel. Emmanuel, bonjour.
Bonjour, Caroline.
Le professeur Ralph Epo est à votre écoute, allez-y.
Bonjour Emmanuel.
Bonjour, professeur. Bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Allez-y, racontez-nous.
Bon, justement, j'ai 50 ans et ça fait 7 ans que j'ai fait une pneumonie. Donc, je toussais beaucoup et je crachais du sang. Je suis allé consulter un médecin qui est mon ami et il m'a prescrit des antibiotiques. Bon, justement, c'était après avoir passé la radio. C'est alors qu'il a confirmé que c'était la pneumonie. Il m'a prescrit des antibiotiques. Enfin, après les traitements, je n'ai pas vraiment pu avoir la guérison directement. Donc, j'ai attendu à peu près une année pour que je puisse me sentir mieux. Donc, en tout cas, à partir de cela, dès que j'ai une toux, je n'hésite plus pour aller consulter.
Et aujourd'hui, vous réussissez à avoir une activité physique normale ou vous vous sentez toujours encombré, un petit peu gêné sur le plan respiratoire ?
Bon, sur les plans respiratoires, j'ai fait des exercices physiques sans problème, mais seulement je me trouve un peu essoufflé après les efforts. Parfois, quand j'essaie un peu de faire des efforts physiques, ça me dérange un peu parfois.
Est-ce que vous avez une question à poser au professeur Ralph Epo, Emmanuel ?
Bon, justement, donc je voulais savoir si ces genres de maladies peuvent avoir des répercussions sur l'état physique du corps.
L'état général, c'est ça votre question. Et moi, je vais ajouter une question personnelle. Un an pour se remettre d'une pneumonie, comment est-ce qu'on l'explique ?
Alors, votre histoire, je suis pneumopédiatre, donc je m'occupe des enfants, mais votre histoire, elle est très intéressante parce qu'elle soulève deux choses. Premièrement, quand on a des pneumonies, on peut avoir des germes qui restent longtemps. Alors, l'exemple le plus important, évidemment, c'est la tuberculose, où vous allez avoir un germe qui va être là et qui va, pour des raisons, parce qu'il se multiplie très très lentement, nécessiter des traitements très prolongés avec une histoire qui va durer très longtemps. L'histoire de la tuberculose, c'est toujours au minimum 6 mois, 1 an pour le traitement d'une tuberculose maladie. Et il y a un autre point qui est à mon avis très important dans votre histoire, c'est les saignements que vous avez pu avoir. Et ça traduit un point qu'on peut voir dans toute infection bactérienne ou virale, c'est la destruction mais une bronche qui va être abîmée.
La détérioration.
Et avec, voilà, la détérioration et avec ce qu'on peut dire des séquelles, c'est-à-dire une bronche qui va être abîmée, fragilisée et qui peut prendre du temps à se réparer ou même rester un petit peu abîmée un peu plus longtemps. Et donc ça, c'est deux points qui sont importants et c'est pour ça que les choses peuvent durer un petit peu. Est-ce que on peut avoir un retentissement ? Oui, comme toute maladie. Si vous avez des bronches qui sont un petit peu abîmées à la suite du poumon, ou si vous avez un poumon qui est un petit peu abîmé après une pneumonie, ça va avoir un retentissement sur votre état en général. Plus de fatigue, moins de tolérance à l'effort. Donc c'est un peu tous ces éléments qui peuvent expliquer ça.
Voilà pour ces commentaires, Emmanuel. On vous souhaite une excellente journée à Kinshasa, en République démocratique du Congo.
Restez là, restez avec moi, n'arrêtez pas m'en dire. Mettez là, venez pour côté là, avec mon comia. Quand il y a tout petit, oui, il est pour moi qui te. Tout brisé, pas vu, je l'ouvris, soleil levé pour le rire. Tout côté au passé, tout côté rivé. Les femmes sont zéro, on pile qui témoin de vous, maman, on va le revivre. Rete là, rete avec là, mérite pas m'en dire. Mette là, vini pour côté là, avec qu'on y a. Rete là, rete avec là, mérite pas m'en dire.
Guillaume Brutus sur RFI. On poursuit notre émission Journée mondiale de la pneumonie avec un coup de projecteur sur les effets, la prévention de cette infection respiratoire sur les enfants. On parle depuis tout à l'heure de la vaccination. On a parlé justement des mesures d'hygiène de base avec vous, professeur Ralph Epau, pneumopédiatre. Et puis bien sûr le cadre de vie, hein, c'est essentiel. L'inhalation de la fumée, on ne le répète jamais assez, le tabac nuit à toute la santé respiratoire.
Alors, je suis un peu, comment dire, obsédé par ça, mais comme beaucoup de pneumopédiatres, il faut savoir que quand vous fumez, moi qui ne fume pas, je sens ces particules. Donc même si vous fumez ailleurs, votre enfant, ces particules, il va les inhaler. Et s'il a des bronches qui sont fragilisées ou par une autre maladie ou l'asthme ou des choses comme ça, ça va les rendre encore plus fragiles. C'est une irritation chronique. Et c'est vrai que si vous frottez sur votre main et que vous frottez énormément, ça va devenir rouge et vous allez être beaucoup plus sensible aux germes. Et ben, c'est exactement ce qui se passe. Ces frottements, cette irritation continuelle fragilise la muqueuse et rend plus facile les infections. Donc c'est extrêmement important. Alors, c'est déjà bien de ne pas fumer en présence des enfants, mais ce qui est encore plus important, c'est d'arrêter de fumer complètement parce que vous ferez du bien, mais vous ferez aussi du bien à vos enfants. Et ça, c'est très important.
On parlait tout à l'heure des personnes fragilisées, bien sûr, en fonction de ce critère de l'âge, également de l'immunité. On peut dire que, globalement, les personnes atteintes de maladies pulmonaires, emphysème, asthme, BPCO, sont particulièrement fragilisées.
Oui, pour ces raisons exactement, c'est qu'ils ont déjà un terrain qui est fragilisé. Et c'est vrai aussi, si vous me permettez, de ces infections récidivantes qu'on peut avoir, on en parlait tout à l'heure, chez l'enfant, et qui probablement aussi sont un terrain pour le développement de BPCO, donc qui est une maladie de l'adulte et pour laquelle on pensait initialement que c'était vraiment que ça apparaissait en fait à l'âge adulte suite à la consommation le plus souvent du tabac. Il y a vraiment un facteur prédisposant chez des enfants qui vont avoir des infections à répétition et qui vont avoir là encore une muqueuse fragilisée et qui va les rendre plus fragiles. Donc le message, là aussi par rapport même au tabac, des enfants qui ont eu des infections à répétition ou des enfants qui sont fragilisés, c'est de vraiment veiller à ce qu'ils ne commencent pas à fumer. Quand je dis ça, c'est un message facile à dire, mais croyez-moi, pas facile à mettre en œuvre.
Même si les derniers chiffres sont plutôt encourageants en sens, puisqu'on voit de moins en moins d'adolescents qui entrent dans le tabac. On en parlait justement, puisqu'on est en plein justement de ce mois contre... Justement, c'est le moment d'arrêter de fumer. On parlait de la BPCO pour bien être précis. Bronchopneumopathie chronique obstructive.
Voilà, c'est une maladie chronique des bronches.
Alors, on va rester, justement, on va passer à d'autres types de pathologies, toujours dans le cadre de cette santé pulmonaire. C'est votre spécialité, professeur Ralph Epau. Cette maladie génétique grave, beaucoup de monde connaissent son nom, la mucoviscidose. Et il y a justement sur le terrain de cette maladie génétique très grave, puisqu'elle hypothèque la vie de celles et de ceux qui en souffrent, même s'il y a une amélioration notable en termes d'espérance de vie en la matière, eh bien, il y a de nouveaux traitements, de nouveaux médicaments avec deux choses distinctes. On va parler, si vous le voulez bien, tout d'abord de cet espoir. Là, on est aux États-Unis, autorisation d'un nouveau traitement, une combinaison de trois médicaments. De quoi s'agit-il ?
Alors, c'est ce qu'on appelle la thérapie protéique. Dans cette maladie, on a une protéine qui ne fonctionne pas bien, c'est la protéine CFTR, et qui peut ne pas fonctionner pour différentes raisons. Soit elle n'est pas fabriquée, alors là c'est vraiment très compliqué, soit elle est fabriquée mais elle est bloquée dans la cellule. Ces thérapies protéiques, elles ont permis au tout début, pour une molécule qui s'appelle l'ivacaftor, de faire marcher la protéine lorsqu'elle était en haut de la membrane et qu'elle ne fonctionnait pas correctement. Elle a permis, et c'est un correcteur, de faire marcher en fait cette protéine. C'est un potentiateur, c'est ce qu'on appelle un potentiateur.
Là, il faut essayer d'être le plus clair possible. Voilà. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce que ça peut changer concrètement pour les personnes atteintes de mucoviscidose de recevoir ce traitement ?
Voilà, c'est pour ça que j'étais un peu...
C'est normal, il faut poser les bases.
Voilà, on a donc ces protéines, ces molécules qui permettent de corriger en fait la protéine. Pour la première fois, ont permis de soigner la maladie. Parce que jusqu'à présent, on faisait on soignait les symptômes, hein, les infections, l'encombrement, tout ça, c'était des traitements qui soignaient les symptômes. Et maintenant, on soigne, on corrige la protéine.
Le cœur du problème.
Le cœur du problème. Donc ça, c'est vraiment une découverte essentielle et majeure. Alors, c'est vrai que pour améliorer le fonctionnement de cette protéine, on a besoin de plusieurs molécules. Est-ce qu'il y a la trithérapie qui a été autorisée, qui va être bientôt autorisée probablement en Europe, permet en fait de corriger pour un très très grand nombre de mutations, c'est-à-dire pour beaucoup beaucoup de malades.
Alors vous avez utilisé le mot autorisation, professeur Alfepo, et c'est bien là le problème, parce qu'il y a d'un côté l'autorisation formelle des pouvoirs publics, des différentes instances, qu'elles soient européennes ou nationales, en termes de sécurité sanitaire, je ne me trompe pas. Et puis ensuite, deuxième étape, et là c'est l'essentiel, c'est pour que les patients puissent y avoir accès, c'est la mise sur le marché. Et on le voit en France, puisqu'il y a un accord qui est en vue, 4 ans après une autorisation de mise sur le marché, quand on parle de maladies génétiques qui affectent la qualité de vie dès les premières années, 4 ans, c'est énorme.
Oui, c'est toujours long et surtout pour les malades. Il faut savoir que ces molécules coûtent très cher et donc il faut avoir une discussion avec le gouvernement et puis les gens qui remboursent pour la balance. Parce que il est vrai que si on dépense beaucoup beaucoup d'argent pour ces molécules, on va pas pouvoir dépenser d'argent pour autre chose, très probablement. Donc il faut avoir le bon bénéfice. Et là, ces molécules avaient un bénéfice, encore une fois importante, qui justifiait un coût. Mais c'est toute cette discussion qui a pris un petit peu de temps. Voilà. Alors c'est vrai que pendant ce temps-là, d'autres molécules vont arriver. On parlait de cette trithérapie et qui vont permettre encore d'améliorer en fait la qualité du traitement. Mais tout cela a un coût et ça le rappelle de façon un peu brutale, qui est un coût qui est toujours difficile à accepter en fait, hein, pour les patients. Mais c'est vrai que les patients qui ont besoin de ce traitement vont maintenant pouvoir le recevoir et le recevoir avec un traitement qui va être remboursé.
Et on constate, hein, les effets de la recherche là très concrètement, parce que pour la mucoviscidose, ça se compte en années de vie, voire même en décennies de vie gagnée pour les enfants qui maintenant atteignent l'âge adulte.
Oui, on a vraiment maintenant une modification avec ces traitements qui vont permettre d'avoir des enfants qui nécessitent toujours des soins, certains qui pour lesquels ces thérapeutiques ne seront pas accessibles, mais des enfants qui vont devenir des adultes. Alors ça, c'est pas un problème, c'est
non, mais ça
vraiment
pose de nouvelles questions.
C'est formidable, mais ça pose un certain nombre de questions parce que ces enfants vont avoir un métier, ces enfants vont avoir une vie, un projet de vie et c'est extrêmement important. Ils vont passer chez les adultes ou ils vont avoir besoin d'une prise en charge par des médecins adultes qui vont avoir besoin, et c'est de plus en plus maintenant, en tout cas en Europe, de connaître cette maladie.
On vous remercie beaucoup, professeur Alfepo. Je rappelle que vous êtes chef du service de pédiatrie au centre hospitalier intercommunal de Créteil. La santé et l'activité physique, on en parle tout de suite dans Priorité Santé avec vous, docteur Jean-Marc Sen. Bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo. Vous nous avez souvent rappelé, hein, que, on le sait, le sport, l'exercice est un bon moyen de réduire le risque d'ostéoporose. Mais on imagine que certaines activités ne sont pas vraiment recommandées. Par contre, d'autres ne sont pas mauvaises quand on souffre d'ostéoporose. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Eh bien oui, parce qu'en fait, il faut retenir que l'os, c'est un tissu vivant. C'est un tissu vivant qui se construit, se détruit et se reconstruit en permanence. C'est ce qu'on appelle le remodelage osseux. Et en fait, il existe plusieurs facteurs qui vont favoriser cette reconstruction ou au contraire cette destruction osseuse. Et notamment, l'activité physique, lorsqu'elle est adaptée, favorise la construction osseuse et le développement osseux. Et on se rend compte que ce qui est intéressant, c'est d'avoir la plus grande variété de contraintes possibles. Bien sûr, la contraction musculaire, mais l'impact au sol, notamment, va avoir une incidence qui va être tout à fait intéressante. À l'inverse, l'arrêt de l'activité physique, eh bien, favorise l'appauvrissement de la structure osseuse. Et donc, pour prévenir tout ça, eh bien, il faut pratiquer de manière régulière de l'activité. Par exemple, ça peut être 30 minutes par jour de marche, ça a été largement démontré, dès l'enfance, dès l'adolescence, parce que c'est là que se crée l'os et se développe le capital osseux. Donc, c'est dès l'enfance, dès l'adolescence, en étant exposé au soleil, avec la vitamine D, qu'il faut faire cette activité physique. Et puis, il faut, même si on souffre d'ostéoporose, là aussi, l'activité physique, c'est démontré, aura tendance à entretenir le capital osseux.
Avec donc du côté des activités, qu'est-ce qu'on peut conseiller? Qu'est-ce qui est à privilégier?
C'est donc les activités qui sont un impact au sol. Donc c'est la marche, le jogging, le fitness, la danse, ou alors l'entraînement musculaire. Le fait de porter le poids du corps permet également d'augmenter cette densité osseuse. Il y a aussi un autre intérêt, c'est de développer l'équilibre. Par exemple, le tai chi chuan va être particulièrement intéressant parce que il va permettre de prévenir les chutes et donc d'éviter les fractures quand l'os est fragilisé. C'est intéressant aussi de renforcer les muscles, même s'il n'y a pas d'impact. Par exemple, la natation va être intéressante parce que en renforçant les muscles, en augmentant la mobilité, ça améliore l'équilibre, ça évite également là de tomber. Si quelqu'un a par exemple une fracture de vertèbre, un tassement vertébral, ce qui peut arriver en cas d'ostéoporose, ça peut être intéressant de faire des activités qui améliorent un petit peu la posture, un petit peu comme le yoga par exemple. Ça va être particulièrement intéressant. En gros, faut plutôt favoriser une multi-activité, c'est-à-dire faire plusieurs choses. Et par exemple, une séance idéale, ça serait commencer par 15 minutes d'échauffement, faire des exercices avec impact au sol, avec de la marche ou un peu de fitness ou un petit peu de course, faire 20 minutes de stretching un petit peu à la fin et puis 15 minutes de retour au calme. Tout ça, ça serait parfait. C'est une petite séance qui est parfaite pour prévenir l'ostéoporose.
Alors, docteur Sen, voilà pour ce qui est conseillé. Maintenant, les activités plutôt à éviter.
Il faut faire attention, notamment chez les jeunes sportifs qui font du sport de manière intensive. Donc, les jeunes sportifs de haut niveau seront à surveiller, surtout s'il y a une restriction alimentaire excessive. À quelquefois, notamment, il y a des sports à catégorie de poids où on peut avoir une restriction alimentaire. Et là, il faudra tout à fait être attentif à ça, ou des sports esthétiques comme la gymnastique, où il faudra être attentif à tout cela. Si on est atteint d'ostéoporose, évidemment, tout ce qui entraîne des chutes et tout ce qui fait tomber, il faut faire attention. Le ski, l'équitation, le VTT, tout ça, ça va être relativement dangereux et risquer de favoriser les fractures. Chez les sujets âgés ou très âgés, eh bien, il faudra regarder, éviter les chutes à domicile, et regarder notamment la qualité des sols à domicile, éviter les sols glissants qui favoriseraient également des fractures. Et puis, pour les activités physiques, donc, bien évidemment, c'est intéressant d'avoir des contraintes. Un peu, moyennement, mais pas trop, parce que s'il y en a trop, là aussi, ça a plutôt tendance à fragiliser l'os. Voilà, plein de conseils finalement qui permettent à nos auditeurs de prévenir l'ostéoporose et qui leur évitera de tomber sur un os.
Merci beaucoup, docteur Jean-Marc Sen. Je rappelle que vous êtes médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo. À bientôt dans Priorité Santé. Notre émission qui touche à sa fin, merci à toute l'équipe qui chaque jour la fabrique, la réalise. C'est tout ça, Maquée, Ophélie Lassène, Didier Bleu aujourd'hui, Laurent Hérault. Demain, nous allons parler du diabète et de la grossesse. Prévention et suivi, évitez bien sûr les complications. Appelez-nous pour témoigner, poser vos questions. 33 84 22 75 75. À demain et d'ici là, portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance. Faites comme tous nos clients prévoyants, mettez à l'abri ceux qui vous sont chers. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.